ce qui est important d'expliquer, c'est pourquoi en fait il y a un rapport de subordination, et c'est parce que la plateforme organise le travail des livreurs par le biais d'un algorithme. Cet algorithme, c'est lui qui rémunère, c'est lui qui distribue les opportunités, c'est lui qui évalue les livreurs, c'est lui qui les contrôle et qui les sanctionne, qui peuvent les exclure de la plateforme. Donc en bref, c'est l'algorithme qui domine le rapport de production. On assiste en fait à une véritable industrialisation du rapport de service de livraison à domicile.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. J'étais contente de l'avoir désinstallé il y a des mois, et puis finalement, après une journée particulièrement éprouvante, le ventre vide devant un placard tout aussi vide parce que je suis en train de déménager, je l'ai rouverte. Ah, l'appli Deliveroo. Ça aurait pu aussi être Uber Eats ou Frishti. Dans tous les cas, aucune de ces applis de livraison de plats cuisinés ne m'avait manqué. J'étais même fière de m'en être débarrassée. Mais avec l'actuelle fermeture des restaurants et le couvre-feu à 18h, je n'ai pas trouvé d'autre moyen ce soir-là de me nourrir. Car voilà bien l'une des conséquences de la pandémie. Beaucoup de gens utilisent les plateformes pour se commander un plat après 18h, même lorsque le resto en question est en bas de la maison. En effet, s'ils veulent un plat cuisiné le soir, ils n'ont pas d'autre choix, puisqu'en ce moment, la vente à emporter est interdite après le couvre-feu. Depuis 2013, ces plateformes sont nombreuses à s'être frayées un chemin dans nos téléphones jusqu'à créer de nouveaux besoins. Celui de rester chez soi plutôt que de sortir prendre l'air pour attraper un plat à emporter. Celui de pouvoir manger à la maison un burger préparé à l'autre bout de la ville. Celui de recevoir un plat cuisiné chez soi tard un soir de pluie, alors que quelques années auparavant, on se serait préparé des pâtes. On le sait, les plateformes de livraison de repas ont contribué à changer les façons de se nourrir en ville. Mais plus récemment encore, la pandémie a même réussi à asseoir leur hégémonie. En effet, ces derniers mois, le Covid-19 aura permis à ces plateformes non seulement de recruter une nouvelle clientèle chez d'anciens réfractaires, mais aussi d'attirer de nouveaux restaurants qui se tenaient autrefois loin des systèmes de livraison. Le site Reporter indique à ce titre que chez Uber Eats, les inscriptions de nouveaux restaurants ont plus que doublé entre mars et juin 2020, avec une activité enregistrée qui a par ailleurs doublé au deuxième trimestre 2020 comparé à celui de l'année d'avant. Cette banalisation des applis de livraison interroge. À différents niveaux. Sur la question des dark kitchens, ces restaurants sans salle, autrement dit des cuisines optimisées pour la livraison et uniquement accessibles en ligne, ou encore sur la question de l'ubérisation du monde, autrement dit ce phénomène qui consiste à mettre en relation directe professionnels et clientèle par le biais des nouvelles technologies. Mais dans cet épisode, nous avons choisi plus précisément de nous placer du point de vue du livreur. Ces derniers mois, avec la précarité grandissante et le règne des plats à emporter, on a assisté au triomphe des plateformes de livraison. Dans ce contexte où l'embauche était plus que timide sur le marché professionnel, être livreur devient une activité envisagée par un nombre grandissant de personnes. Et parce que la banalisation de cette activité fait bel et bien partie de ce qu'il restera du Covid-19, il est urgent de s'interroger sur les conséquences d'une telle organisation du travail sur les travailleurs précaires. J'ai donc tendu mon micro à Fabien Lemozy, sociologue et chercheur à l'Institut de psychodynamique du travail, un institut de recherche qui s'intéresse à la centralité du travail dans la construction de la santé mentale. Sous la direction du professeur Christophe Dejour et avec son collègue chercheur Stéphane Lelay, Fabien Lemozy a travaillé sur le vécu des livreurs de plateforme pendant le confinement, en les faisant discuter de leur travail sous forme d'entretien collectif. Pour Fabien Lemozy, il est évident que les livreurs n'ont d'indépendant que le statut. Il commence par nous expliquer la différence entre les coursiers, communauté historique de travailleurs états-uniens passionnés de vélo, et les livreurs, purs produits malléables des plateformes. À noter que dans cet épisode, nous parlons de livreurs, sans prendre le temps à chaque fois de le genrer au féminin en parlant de livreuse, car dans son ensemble, cette activité est très majoritairement pratiquée par des hommes. Vous le verrez d'ailleurs, notre invité évoque une certaine virilité revendiquée dans le secteur.
Il faut bien faire la distinction déjà entre coursier à vélo et livreur à vélo. De l'extérieur, ça peut paraître similaire. En fait, le métier de coursier à vélo préexistait aux plateformes. C'est-à-dire qu'il existait des gens qui livraient des marchandises à vélo avant que les plateformes arrivent sur le marché. C'était déjà un métier consolidé, connu, avec un collectif de travail. Et ce métier se renvoie à des contextes sociaux très différents, en fait. Et un ensemble de codes et de normes sociales et un rapport au travail qui est différent. À vélo, il y a une forte identification au bike messenger nord-américain, au bike messenger new-yorkais et à la culture qui est associée. Et il y a des chercheurs spécifiques qui ont fait un travail sur la culture de coursiers à vélo en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc ces coursiers, ils livraient par exemple des plis, des colis, des plans d'architectes. C'était pas de la livraison de nourriture. Donc il y a tout un sentiment d'appartenance à une communauté de coursiers en vélo qui est développée. Ils ont un style vestimentaire particulier, ils ont des rituels particuliers, comme celui, par exemple, de la fête. Hein. Ils ont des fêtes entre eux. La musique, c'était beaucoup associé à la musique punk et après à la musique hip-hop, par exemple. Et donc, voilà pourquoi aussi la notion de plaisir au travail est souvent relié à un certain lifestyle, à un certain mode de vie du coursier. Et c'est surtout ce qui changeait, c'est le rapport au vélo. C'est-à-dire que les coursiers à vélo, ben, ils roulent pas avec n'importe quoi. Ils roulent pas avec des Vélib, par exemple. Ils ont des vélos plus sophistiqués et personnalisés. Et typiquement, l'introduction du fixie, le vélo à pignon fixe dans l'espace urbain, ça vient des coursiers à vélo nord-américains. Parce que c'était des vélos simples et faciles d'entretien. Et donc, dont ils pouvaient facilement remplacer les pièces, par exemple. Et il y a aussi un rapport compétitif au vélo, c'est-à-dire ils ont leur propre compétition. Des compétitions qui sont clandestines, les alicates, donc c'est des compétitions qui reprennent le métier de coursier, livré d'un point A à un point B, mais dans un temps imparti et en se tirant la bourre avec les autres collègues. Et il y a aussi des compétitions qui sont plus officielles, comme le championnat du monde de coursier. Donc toute cette culture de coursier préexistait aux plateformes de livraison. Et l'arrivée des plateformes de livraison a profondément modifié en fait ce métier de coursier à vélo, de telle façon qu'il faut en faire la distinction, parce que les coursiers à vélo, traditionnels on va dire, ne se reconnaissent pas dans ce que proposent les plateformes de livraison.
Il y a une fierté, en fait, du coup, un sentiment de communauté chez les coursiers dont vous parlez. Alors.
Tout à fait. Il y a un collectif et un sentiment d'appartenance à une communauté qui se développe et une fierté. Typiquement, on a parlé avec des coursiers, pour le coup, qui sont en coopérative, et ils parlent de la fierté du coursier. C'est vraiment très important. Ce que modifie l'arrivée des plateformes de livraison, c'est qu'en fait, livreur à vélo, c'est plutôt plus une fonction, en fait, qu'une identité. C'est, je dirais même pas un statut, parce que le statut, c'est le statut d'emploi, on va dire, le auto-entrepreneur ou salarié, c'est un statut d'emploi. Là, eux, le livreur est arrivé avec l'émergence des plateformes de livraison, en fait, qui ont ouvert le métier à des personnes qui n'étaient pas forcément amateurs de vélo, par exemple, vous voyez. Ils n'étaient pas des personnes forcément intéressées par le vélo, intéressées par le milieu professionnel de coursier, qui ne le connaissaient pas forcément. Parce que c'était un métier, quand même, un milieu professionnel assez fermé. Donc, n'entrez pas qui voulait dans ce métier. Et avec l'arrivée des plateformes de livraison, ben, il n'y a pas de barrière au recrutement. Tout le monde peut, en fait, postuler.
Pour beaucoup de personnes, c'est devenu, du coup, un métier d'appoint aussi, quelque chose qu'on va faire quand on ne trouve pas forcément du travail ailleurs.
C'est ça. C'est un métier, on nous a dit, qui a été investi, on va dire, par des personnes qui font ça de manière complémentaire. Voilà, des personnes salariées qui veulent se faire un peu d'argent ou les étudiants. Donc, c'est vrai que dans le discours des plateformes, c'était un peu ce qui était avancé. L'idée de ce métier qu'on fait de manière complémentaire. Sauf qu'il se trouve qu'en fait, les profils ont beaucoup évolué. Et beaucoup de personnes, en fait, font ça à temps plein et en temps plus que plein même. Parce que c'est parmi les livreurs, on trouve des personnes qui travaillent plus de 50 heures, plus de 60 heures par semaine. Surtout, donc, le discours des plateformes à ce sujet ne passe pas. Il ne s'agit pas que d'étudiants ou de personnes qui font ça de manière complémentaire. C'est faux. D'une part, parce que, voilà, on voit des personnes qui travaillent 50 heures, 60 heures, mais surtout parce qu'en fait, leur activité ne pourrait pas se faire sans les personnes qui travaillent à temps complet. Parce que les personnes qui font ça en appoint ne sont pas là tout le temps, par définition, et ne sont pas là pour, pas forcément des heures, voilà, les heures entre 14h et 18h. S'il y a personne, comment ils font? C'est parce qu'il y a des personnes qui sont là tout le temps, qui arrivent, en fait, à assurer leur activité.
Donc, le plus gros de la machine, justement, compte sur ces personnes qui travaillent toutes ces heures dont on parle, 50, 60 heures. Ça veut dire que la plateforme, elle a besoin, en fait, de cette force vive de travailleurs. Et est-ce que, du coup, on peut se dire qu'elle est hypocrite quand elle dit que les livreurs ne sont que, finalement, des travailleurs qui viennent travailler de temps en temps? Alors qu'au fond, elle a besoin de cette masse pour tourner.
De toute façon, le discours des plateformes se base sur son hypocrisie et son cynisme. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit sur le travail de livreur est faux. Travail autonome, c'est faux. Ce n'est pas un travail autonome. Il y a des tas de contraintes organisationnelles de la part des plateformes qui pèsent sur les travailleurs de plateformes, sur les livreurs. Et elle dit que c'est un métier simple. Quand on s'intéresse en fait au métier de livreur, Ce n'a rien de simple. Donc, un métier simple, autonome, libre, voilà, qu'on fait ça en liberté quand on veut. Ce qu'il faut aussi, parce que, avec l'instauration de créneaux horaires qu'il faut réserver pour pouvoir travailler, et qui dépendent des statistiques individuelles de chacun, c'est faux. Il faut pouvoir être en mesure d'alimenter ces statistiques individuelles et d'être en mesure de réserver des créneaux horaires. Donc, ce n'est plus quand on veut, c'est quand on peut, quand on a la possibilité de réserver. D'autant plus que la concurrence que se livrent les livreurs, parce qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, plus de barrière de recrutement. Donc, il y a tout un flux de personnes qui travaillent sur ces plateformes, qui cherchent aussi des opportunités de travailler. Donc, il y a une vraie concurrence qui s'installe, en fait, entre les livreurs pour être en mesure de travailler, d'être disponible pour la plateforme et d'être toujours là sur le terrain pour prendre les opportunités de livrer une commande et de gagner un peu d'argent par rapport à ça. Parce que voilà, il faut bien préciser qu'ils sont payés à la tâche. Et donc, le temps qui passe sur la plateforme n'a rien à voir, en fait, avec la rémunération qu'ils ont. C'est que par rapport aux livraisons qu'ils effectuent.
Vous l'avez dit, les coursiers sont sur le papier des travailleurs indépendants, mais tout de même, ils travaillent pour des plateformes qui ont un règlement strict. Quel est le rôle vraiment de ces plateformes? Quelles influences elles ont sur le travail des livreurs indépendants? À quel point, en fait, cette organisation du travail, elle pèse sur ces coursiers censés être indépendants?
Le rôle des plateformes est majeur, car malgré ce qu'elles ont tenté et tentent encore de faire croire, en fait, les plateformes organisent le travail. C'est le point clé. Donc, elles ne sont pas dans un simple rôle d'intermédiaire, hein, comme elles veulent le faire croire, en se réfugiant derrière le statut des travailleurs, hein, sous prétexte qu'elles embauchent des auto-entrepreneurs. Eh bien, il n'y aurait pas de rapport de subordination. C'est totalement faux. C'est un contournement du droit du travail, en fait, et une série de travaux l'ont déjà montré. Je pense aux travaux de la juriste Barbara Gomez, par exemple, aux travaux de Sarah Abdelnour ou de Sophie Bernard sur ces questions. Mais ce qui a aussi montré que c'était faux, c'était en fait les sanctions récentes qui ont été faites par la justice en Europe concernant la requalification des contrats en contrats salariés. La justice, dans certains pays, a obligé, ou le Conseil des prud'hommes en France a obligé, à requalifier les contrats d'indépendants en salariés. Donc, tout ça montre bien qu'en fait, il y a un rapport de subordination. Ce qui est important d'expliquer, c'est pourquoi, en fait, il y a un rapport de subordination, et c'est parce que la plateforme organise le travail des livreurs par le biais d'un algorithme. Cet algorithme, si vous voulez, c'est lui qui rémunère, c'est lui qui distribue les opportunités, c'est lui qui évalue les livreurs, c'est lui qui les contrôle et qui les sanctionne, qui peuvent les exclure de la plateforme. Donc, en bref, c'est l'algorithme qui domine le rapport de production. Voilà. Donc, ce à quoi, en fait, nous assistons sur ces 5 dernières années, grâce à cet algorithme qui est capable d'automatiser, de standardiser des données de commande, de mettre en relation les différentes personnes de manière instantanée, c'est-à-dire le livreur, le restaurateur, le client, on assiste en fait à une véritable industrialisation du rapport de service de livraison à domicile. Et cette industrialisation, elle est réussie en fait, comme tout mouvement d'industrialisation, grâce à la création d'une chaîne. Hein. Donc, non pas la chaîne mécanique ou la chaîne robotique, comme à l'époque du capitalisme industriel, mais c'est une chaîne en fait algorithmique. Voilà. Et le livreur constitue en fait le maillon à facteur humain de cette chaîne algorithmique. C'est très important et c'est la raison pour laquelle pour eux, pour les plateformes, il est important de développer des outils capables d'encadrer cette main d'œuvre en fait. Voilà. Et grâce à ces outils, en plus, elles traitent chaque livreur individuellement et instantanément, malgré leur nombre et leur dispersion géographique. Voilà. Donc ce traitement individualisé, en fait, ça assure l'instauration d'une concurrence féroce entre livreurs et notamment par la mise en place de mécanismes de rémunération incitatifs, le paiement à la tâche, les bonus, les primes, mais aussi des mécanismes de contrôle liés au suivi par GPS, hein, le suivi géolocalisé, et à des mécanismes de sanctions, c'est-à-dire que il y a toute une évaluation individualisée des performances du livreur qui sont enregistrées et qui permettent à la plateforme de sanctionner. Voilà. Ces sanctions, c'est une sorte de mécanisme de pouvoir comme ça de la plateforme sur le livreur qui lui permet de décider quand, s'il peut travailler ou de le rappeler à l'ordre s'il a une mauvaise notation de la part du client ou s'il ne s'est pas présenté sur un créneau horaire. Voilà, donc on voit un peu les mécanismes qui pèsent sur de tout son poids en fait sur les livreurs et qui ne sont pas indépendants mais justement bel et bien dépendants de la plateforme.
Alors vous avez mené beaucoup d'entretiens avec des livreurs. Est-ce qu'ils vous ont rapporté des choses par rapport à des insatisfactions ou au contraire des choses qu'ils appréciaient dans l'exercice de ce travail? Est-ce qu'ils vous ont fait également part de techniques ou de stratégies du quotidien pour pallier certains manques?
Lors de nos entretiens collectifs en fait, avec les livreurs, il faut comprendre qu'une source de souffrance majeure dans le métier est liée à l'incertitude en fait, qui pèse sur la seule responsabilité du livreur, de sa propre productivité. Rien ne lui est garanti en fait. Il en va de sa survie économique. C'est une chaîne et le moindre arrêt ou ralentissement de la chaîne a une influence négative en fait, directe sur la capacité à générer un chiffre d'affaires pour cet auto-entrepreneur qui est le livreur. Donc dans le cas des livreurs, il y a en effet des triches qui sont indexés au fonctionnement de la plateforme. Ils arrivent à trouver voilà, des petites stratégies comme ça pour pallier certains manques, comme vous dites, et qui sont surtout dirigés justement vers le souci de sa propre productivité. Alors, comme le dit un livreur, il s'agit en fait de jouer sur les règles pour gagner au niveau de la rémunération, tout simplement. Donc c'est très vectorisé vers leur propre productivité. Alors typiquement, ça va être l'échange de créneaux horaires, par exemple. Voilà, c'est on a un nombre limité de créneaux horaires. Voilà, pour les plateformes où il s'agit de réserver des créneaux horaires, toutes ne le font pas. Mais ça pour dire, ils peuvent voir avec un autre livreur s'ils peuvent s'échanger des créneaux horaires que un ne va pas faire, afin de pouvoir avoir plus de temps disponible sur la plateforme, tout simplement. Se rendre disponible plus facilement pour la plateforme en fait. C'est une forte disponibilité comme ça temporelle très importante que le livreur doit s'assurer. Un autre exemple de tricherie, comme on appelle, ça serait disposer de plusieurs téléphones par exemple. Voilà. Avec un téléphone, je suis connecté avec un téléphone sur un compte Deliveroo et je suis connecté avec le téléphone de ma copine sur un autre compte Deliveroo. Donc comme ça, j'ai deux comptes et je me donne plus de chances de recevoir des commandes. Voilà. Ou une autre façon de faire, c'est aussi être sur plusieurs plateformes de manière simultanée. C'est-à-dire sur le même téléphone, je vais ouvrir Uber Eats et Deliveroo et attendre le premier qui me propose des livraisons. Encore un autre exemple, c'est le fake GPS. C'est-à-dire que c'est un faux GPS, une appli qui servait à se placer, à se géolocaliser en fait, à un autre endroit de la ville pour avoir plus rapidement des commandes. Typiquement, si l'appli vous envoie livrer à un endroit un peu loin des restaurants, des zones de restaurants, avant même de revenir sur la zone, vous déplacez, vous le géolocalisez près des restaurants pour avoir plus de chances d'avoir plus rapidement, vous voyez, une opportunité de livrer un repas. Donc ça, c'est des exemples de stratégies, de petites tricheries comme ça, qui sont faites pour s'assurer hein, toujours cette productivité. Mais chaque technique a un caractère précaire, car elles peuvent être barrées, justement, ou intégrées par la plateforme. Donc voilà, c'est un adversaire redoutable. Hein, la plateforme, il faut le comprendre. Le fake GPS, elle a été capable, par exemple, de le repérer et donc d'éteindre l'application s'il y avait un fake GPS sur le téléphone. On nous a fait souvent part, en fait, d'une relation d'inimitié, en fait, de défiance ou de méfiance qui se construisait par rapport à la plateforme. C'est-à-dire que ils disent, on se bat contre l'algorithme ou on veut baiser la plateforme. Donc, vous voyez, c'est à la fois très explicite et très viril. Hein. C'est un métier où il faut être en mesure de gérer beaucoup d'agressivité. Des autres envers soi, de soi envers les autres, et de l'état agressif dans lequel peut nous mettre la plateforme aussi, en fait. Comme le disait un des participants, tout est fait pour t'énerver dans ce métier. Hein? Un livreur de plateforme qui nous disait, tout est fait pour t'énerver dans ce métier. C'est aussi ce que fait la plateforme aux livreurs de plateforme, c'est qu'ils le mettent dans des positions d'incertitude où une majeure partie du temps, ils doivent attendre, soit attendre une commande, soit attendre qu'on leur distribue une commande, soit attendre devant le restaurant, qu'on leur donne la commande qu'ils attendent, ou soit attendre que le client descende chercher la commande. Tout ça, en fait, ça paraît microscopique, mais ça trotte dans leur tête. Ils se disent, mais en fait, je suis en train de perdre de l'argent. Ouais. Donc, tout est vectorisé vers cette productivité.
Est-ce qu'ils ont, par rapport à cet agacement, enfin, en tout cas, ce côté un peu électrique du quotidien, est-ce qu'ils ont moyen de se retrouver, discuter, avoir comme un sas de décompression? Est-ce que, faute d'avoir été mis en place par les plateformes, est-ce que ce sont des choses que eux inventent eux-mêmes comme interstice pour se retrouver et discuter peut-être des problèmes qu'il y a et peut-être aussi les faire remonter.
C'est, on va dire, la spécificité en fait de la livraison sur plateforme. On disait que les coursiers, il y avait un collectif de travail avec une communauté d'appartenance. On est à l'opposé avec les plateformes, c'est-à-dire que les livreurs sont très seuls, ils sont tout seuls. Si vous voulez, en tant que rapport social, hein, le travail, il y a une dimension collective irréductible. C'est-à-dire que forcément, quand on travaille avec, avec d'autres personnes, pour d'autres personnes. Donc, il y a forcément des relations sociales qui sont censées s'instituer entre les gens. Sauf que voilà, pour former un collectif de travail, il faut qu'il y ait des rapports de coopération. Et il faut tisser des liens d'entraide et de solidarité hein, avec les personnes avec qui on travaille, afin de s'assurer justement de la réalisation des activités, de suivre des règles de métier, des règles de travail qui sont communes. Voilà. Nous, lors de notre enquête, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de collectif de travail. D'une part, il n'y a pas de collectif de travail, mais qu'en plus, que les dynamiques collectives ont tendance à s'organiser autour de facteurs qui contribuent à alimenter la division entre les livreurs. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont le statut de micro-entrepreneur. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont indépendants. On peut être indépendant et travailler ensemble. Donc, ça suffit pas, en fait, à expliquer pourquoi. C'est que c'est vraiment la mise en concurrence généralisée des livreurs qui est organisée par la plateforme, hein, par l'évaluation individualisée des performances, par les opportunités de livraison qui sont distribuées de manière opaque, hein, voilà. Donc, c'est la mise en concurrence généralisée des livreurs. Qui présuppose en fait que ce que l'un gagne se fait au détriment de l'autre. Si j'ai une livraison ou si j'ai plusieurs livraisons, je vais avoir une prime, mais cette prime en fait elle barre l'accès à la prime à l'autre parce que si j'ai la prime en fait l'autre il peut pas l'avoir. Et donc en fait il y a bien des groupes sur les réseaux sociaux par exemple, sur les WhatsApp, sur les Telegram, mais ces groupes sont utilisés pour échanger en fait des informations sur le fonctionnement. Il y a quelques ficelles de métier qui vont passer en fait, mais c'est très restreint. On échange surtout des protocoles et de la prescription. Mais on ne part pas vraiment du travail. Du travail réel, comme on dit, du travail effectif. Et en plus de ça, voilà, les réseaux sociaux, c'est des courts messages écrits, c'est des pseudonymes. Donc on ne connaît pas les personnes avec qui vraiment on discute. On n'est pas sûr de les retrouver après dans le travail. C'est, ils ne sont même pas dans la même ville, par exemple. Donc des fois, c'est compliqué.
Rien à voir avec une machine à café ou une pause déj où on va pouvoir exactement, ouais. Parler ensuite à un syndicat et défendre ses droits dans une entreprise.
Tout à fait. Donc il y a en fait cette idée de possibilité de collectif de travail et en plus de pouvoir parler du travail, de pouvoir délibérer, comme on dit, sur le travail est très réduite. En fait, ces possibilités sont réduites. Et donc, on ne peut pas établir en fait, de règles de travail ou de parler de certaines situations de travail qui font souffrir ou qui nous mettent en difficulté. Et il est difficile de bâtir quelque chose là-dessus. Et donc, le fait de ne pas pouvoir parler du travail, justement, et de formaliser des règles de travail, c'est d'ailleurs ce qui explique que la notion de qualité de travail est totalement absente de nos discussions collectives avec les livreurs. Ils ne parlent pas de qualité du travail. C'est-à-dire que c'est une notion qui est étrangère, en fait, parce que ce n'est plus leur préoccupation. La préoccupation, c'est la productivité. Arriver à survivre sur la plateforme. De telle façon que, voilà, c'est des moments où, pour aller plus vite, je sais que sur les trois pizzas, il y en a une qui est en mauvais état, et bien je la glisse en dessous de la pile, et voilà, la personne va regarder la première pizza, va dire ah, « c'est bon », et le livreur ne perd pas de temps en fait, avec une complainte ou un problème ou qu'il doit régler. Il peut valider sa commande et partir sur une autre. Ouais. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, c'est aussi comment on entretient nos sacs de livraison et tout ça. Il n'y a aucune chose là-dessus, en fait, si vous voulez. Ça ne fait pas partie du travail. La notion de qualité a disparu. Voilà.
J'ai une dernière question. Est-ce que finalement, pour assainir ce métier et les conditions de travail dont on parle et de permettre à cette notion de qualité du travail de revenir dans la discussion, est-ce qu'une solution possible serait de tout simplement donc arrêter avec cette organisation qui dépend de ces algorithmes et proposer donc des contrats à tout le monde, des CDI à tout le monde. Que ces entreprises, en fait, ces plateformes acceptent l'idée qu'elles ont besoin en flux tendu d'un certain nombre de personnes et que cette masse de personnes soit une masse salariée.
L'idée commence à faire son chemin. On a vu, il me semble que c'était Just Eat qui parlait de salariés, beaucoup de livreurs. Il y a un rapport, le rapport Frouin, qui a été commandé en fait par le ministère du Travail, il me semble, pour savoir quoi faire du statut des livreurs. Voilà. C'est un vrai enjeu juridique et politique. En fait, ce rapport Frouin, il dit que il faut les salariés, mais par le biais d'une organisation tierce, hein, une société de portage ou une coopérative, voilà, une CAE. Donc c'était une solution, voilà. Mais c'était une solution qui déresponsabilisait toujours en fait la plateforme, c'est-à-dire que la responsabilité juridique allait sur la société de portage ou la coopérative, mais n'allait pas à la plateforme, alors que c'est la plateforme qui continue à organiser le travail. Donc il y avait une vraie volonté d'écarter de la responsabilité les plateformes. C'est intéressant pourquoi à tout prix ils veulent pas que toucher à l'organisation du travail des plateformes. Toujours est-il que si on allait dans le sens maintenant du salariat, ça réglerait un certain nombre de problèmes liés justement à la sécurité sociale, à l'assurance chômage. Donc ce n'est pas négligeable. Malheureusement, le salariat ne garantit pas qu'une organisation du travail n'est pas délétère ou ne peut pas mettre en concurrence ses salariés. Typiquement, l'explosion des pathologies mentales en France sur ces dernières décennies, ce n'est pas à cause de l'auto-entrepreneuriat. Ça se passe dans des sociétés, dans des entreprises, dans des institutions qui ont des salariés. Donc, le fait de salarier ne suffit pas. C'est aussi tout ce qu'on met en place dans l'organisation du travail et qui met en concurrence les travailleurs, qui fait que ça porte atteinte à la santé des travailleurs. Donc, si on continue à les salarier, mais qu'on remet en place des systèmes de primes, des systèmes d'évaluation, des performances, qu'on continue avec le management algorithmique et la façon de contrôler les travailleurs et laisser le système de notation aux clients, par exemple. Tout ceci, en fait, contribue quand même à instaurer cette concurrence et à faire que les travailleurs sont dans une compétition. Voilà. Donc le salariat, c'est une partie en fait, du problème. L'enjeu juridique du statut auto-entrepreneur, salarié, c'est un problème qu'il faut régler à tout prix. Mais tout le problème n'est pas là, en fait. Voilà. C'est dans l'utilisation en fait, de la technologie et de ce qu'on veut en faire. On pourrait très bien se servir des outils algorithmiques pour faire en sorte que le travail se passe bien et faire en sorte que tout le monde travaille de façon coordonnée, qui coopère entre eux et sans forcément instaurer de concurrence.
Je trouve très important ce que Fabien Lemozy fait remarquer à propos des algorithmes et de leur pouvoir avilissant sur la santé mentale des travailleurs. Il me semble qu'on tient là un des plus gros enjeux contemporains en matière de liberté. Comprendre comment les algorithmes des applis de notre quotidien fonctionnent et donc de quelle manière ils façonnent notre accès au monde. Toujours sur le sujet des livreurs, je vous recommande la lecture de l'enquête de Libération parue en novembre 2020 sur les livreurs sans papier et le business de sous-location de comptes. On vous glisse le lien en description de l'épisode. Merci à Fabien Lemozy de nous avoir donné de son temps pour parler de la santé mentale des livreurs. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charles Niao. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.